Bonsoir. Publication vendredi dernier à Kinshasa par l'Observatoire de la dépense publique d'Imponsigle du rapport comparatif de la gestion des finances publiques des deux régimes Kabila et Tshisekedi. Dans un point de presse, le président de l'ODEP, Florimond Moutéba, a déclaré que les régimes se succèdent, mais la mauvaise gouvernance des finances publiques demeure et s'aggrave. De 2017 à 2019, affirme-t-il, le comportement est le même, plus de moyens pour les institutions et moins de moyens pour le social, ou alors une exécution minable, parce que même quand on donne 3% à l'agriculture, c'est à peine 0,8% d'exécution. L'ODEP recommande au Parlement le renforcement de contrôle de l'exécution de la loi des finances en interpellant les membres du gouvernement, des institutions et des services publics. Quelle analyse faire des conclusions de ce rapport? Que faire pour améliorer l'exécution de la loi des finances? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 19 juillet 2021. Participe au débat professeur Florimond Moutéba. Il est président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique au Imponsigle. Professeur Florimond Moutéba, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, madame.
Professeur Jean-Claude Chilumbay, député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Professeur Chilumbay, bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir.
Et le professeur Dadi Saleh, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique, qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Mais vous, auditeurs de Radio Okapi, vous êtes déjà là, très nombreux à nous suivre et à envoyer vos réactions. C'est le cas de Rémi Lokonga, depuis Kisangani dans la province de la Tshopo. La conclusion du rapport de l'Observatoire de la dette publique est à mon humble avis salutaire, d'autant plus qu'il s'observe une forte budgétisation des institutions de l'État au détriment du social du peuple congolais, malgré les changements des gouvernements. Pour améliorer l'exécution de la loi des finances, il faudrait d'abord que l'État puisse réduire les coûts des institutions à tous les niveaux, en commençant par la présidence de la République, en vue d'améliorer les conditions de vie de la population et aussi une prise de conscience des dirigeants du pays. À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine. Radio
Okapi. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Je l'ai dit, l'Observatoire de la dépense publique au Imponsigle a publié vendredi 16 juillet à Kinshasa un rapport comparatif de la gestion des finances publiques des deux régimes Kabila et Tshisekedi. Dans un point de presse, le président de l'ODEP a déclaré que les régimes se succèdent, mais la mauvaise gouvernance des finances publiques demeure et s'empire. Et cela au mépris de l'éradication de la pauvreté et de la lutte pour le développement et la transformation sociale. Les propos du président de l'ODEP, Florimond Moutéba, ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous considérons que la même négligence, la même exclusion des secteurs pauvres a accompagné tous les régimes, tous les deux. Et de 2017 à 2019, le comportement est le même. Plus de moyens pour les institutions et moins de moyens pour le secteur pauvre et une exécution minable. Parce que même quand on donne 3% à l'agriculture, c'est à peine 0,8% d'exécution. Une politique comme celle-là ne peut pas permettre une croissance inclusive, ne peut pas permettre la lutte contre la pauvreté et ne peut pas permettre l'émergence même de notre pays. Parce que il s'agit d'une évolution qui exclut. Comment voulez-vous faire un développement sans que des millions de Congolais soient à la fois le moteur, les acteurs et les bénéficiaires de ce développement? Mais alors, il faut se tourner vers les Congolais. Le capital s'est fait chez soi. La dette intérieure congolaise, elle est négligée, par exemple. On ne paye pas les fournisseurs congolais, les hommes d'affaires congolais, les entrepreneurs congolais. C'est une politique budgétaire négative qui ne tient pas compte de la justice distributive.
Professeur Florimond Mouteba, je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique d'Eponsigle. Votre structure a publié vendredi un rapport comparatif de la gestion des finances publiques de deux régimes, Kabila et Tshisekedi. Selon ce rapport, de 2017 à 2019, le comportement et le même mauvaise gouvernance des finances publiques. Quels sont les éléments sur lesquels vous vous basez pour conclure que les régimes se succèdent, mais la mauvaise gouvernance des finances publiques demeure et s'aggrave?
Merci madame pour la question. Madame, vous savez, cette étude ici sur l'analyse de l'exécution des lois des finances de 2017-2019, c'est tout simplement la suite d'autres études que nous avions menées depuis 2012. La toute dernière avant celle-ci analysait la période 2014 à 2016. Et celle-ci continue, analyse la période, nous faisons ça sur le plan triennal chaque fois, donc en collant à la logique même des programmes du gouvernement, donc vous savez qu'on est le cadre des dépenses à moyen terme, c'est fait sur chaque fois sur 3 ans. Nous n'avons pas voulu mélanger ni la gestion de l'un ou l'autre, non. Nous sommes restés sur la logique du cadre budgétaire à moyen terme qui prend les programmes des 3 ans et la budgétisation sur 3 ans. Et c'est ainsi qu'après avoir travaillé sur 2014 à 2016, nous avons travaillé sur 2017 à 2019. Donc, on est vraiment dans la logique que c'est que fait l'ODEP depuis 10 ans et donc on n'a pas choisi une période particulière pour pouvoir faire ce travail. Il se fait qu'entre 2017 et 2019, il y a eu 2 régimes, 2 années encore où le président Kabila a travaillé et une année où c'était le tour du président Tshisekedi.
Vous affirmez, professeur Florimond Mouteba, que le comportement est le même de 2017 à 2019,
tout à fait.
Plus de moyens pour les institutions et moins de moyens pour le social.
Exactement.
2019, est-ce qu'il fallait vraiment s'attendre à un changement? Est-ce que ce n'est pas un peu trop proche pour qu'on sente le changement, sachant que Félix Tshisekedi venait à peine de prendre le pouvoir?
Madame, prenons l'année 2019. Qu'est-ce que ça a été? Dès le départ, on a assisté à des dépassements budgétaires continus. Ensuite, nous avons eu les fameux programmes de 100 jours, exécutés en dehors de la loi des finances 2019, exécutés en violation de la LOFIP, la loi cadre sur les finances publiques, exécutés en violation de la loi sur la passation de marché. Et donc, vous savez à quoi nous avons publié en ce moment-là le 8 janvier 2020, c'est les rapports sur cette gestion-là dont les médias se sont emparés. La pression a été telle que finalement le président de la République a décidé en conseil des ministres que la justice fasse son travail. Et la justice a fait son travail, vous vous rappelez de ce qui s'est passé. Par après, vous avez vous-même reçu aussi les conclusions de la loi sur la reddition des comptes 2019 ainsi que les rapports de la Cour des comptes dans lesquels les dépassements budgétaires, notamment par exemple à la présidence de la République, on a eu dans certaines lignes des dépassements allant jusqu'à 14 000% de dépassements, n'est-ce pas? Tout comme l'année 2000, par exemple, 18, s'est terminée avec des dépassements de 1000%. Ça, c'était la gestion de Joseph Kabila dans certaines dépenses à la présidence. Et donc, vous voyez que ce n'est pas gratuit que nous disons ça. Les budgets, par exemple, affectés au secteur pauvre, tout est resté dans la même proportion que je prends, par exemple, l'agriculture. Vous savez que, grosso modo, l'agriculture reçoit, l'exécution des budgets de l'agriculture ne dépasse pas 50 millions de dollars par an. Mais 50 millions de dollars, vous voyez, les seuls détournements dans les programmes de 100 jours, on était déjà à 58 millions, hein, où quelques individus s'y prennent et mettent en poche. Et c'est ça le budget de tout un ministère, n'est-ce pas? C'est resté comme ça, madame, c'est resté de cette manière-là. Et alors, quand vous regardez, par exemple, la question de la corruption, l'indice de perception de la corruption pour la RDC selon Transparency International, nous avons baissé de 8 points sur l'année 2019. Donc, des années Kabila, après l'année 2019, on a régressé de 8 points. L'année 2020, nous avons régressé encore de 2 points, 8 d'abord et plus 2. Et donc, quand je dis que ça empire, c'est par exemple par rapport à ce genre de baisse à ce genre de baisse.
Vous 2020, pensez qu'il n'y a pas d'amélioration, par exemple, dans la lutte contre la corruption? On a vu plusieurs personnes être arrêtées pour détournement, pour corruption. Est-ce que ça, ce n'est pas déjà un grand pas que fait le gouvernement congolais?
Madame, oui, il y a un petit pas en avant avec l'instruction générale des finances. Oui, à l'époque, c'était zéro contrôle. Avec l'instruction générale des finances aujourd'hui, on peut parler quand même qu'on est parti de zéro à des contrôles. Et malgré le fait que très souvent, ces contrôles sont dirigés contre des ennemis politiques, bon, mais quand même, quand il y a des criminels, et ces criminels en col blanc, eh bien, il faut les arrêter. Donc, nous disons que tout ce que fait l'instruction des finances n'est pas mauvais. Il y a de bonnes choses parce que nous partons de zéro à des contrôles. Donc, nous sommes objectifs. Mais globalement, madame, la situation, elle reste mauvaise. La mauvaise gouvernance perdure. Vous voyez, par exemple, cette année, malgré qu'il y avait eu le programme de 100 jours et que nous avons dénoncé le fait que ces programmes étaient hors budget, vous voyez qu'on a répété encore. Donc, les gens n'ont rien appris. On a répété avec un autre projet qui s'appelle Chile Jaloux. Encore un projet qui est hors loi des finances.
Professeur, il y a oui. Cet auditeur qui nous écrit depuis la ville des Beni au nord Kivu, qui est en train de nous suivre en ce moment. Il s'appelle Fabrice Sambili, qui dit ceci: nous saluons ce rapport de l'Observatoire de la dépense publique. Néanmoins, le dépassement budgétaire en soi n'est pas un indice de bonne ou de mauvaise gouvernance, mais plutôt la conséquence d'une sous-estimation budgétaire de certains comptes lors de l'élaboration des prévisions budgétaires, et c'est pourquoi même les imprévus existent. Néanmoins, il serait important de reconnaître la bravoure de l'actuel président comparativement au cycle infernal qu'a traversé notre pays 18 ans avant, au regard des activités palpables, notamment des sauts des moutons, gratuité de l'enseignement, pour ne citer que ça. Et ça doit nécessairement avoir un impact sur les dépenses. Donc, dire que la mauvaise gouvernance s'aggrave, c'est cracher sur les efforts que fournit l'actuel président pour essayer de remettre le pays sur les rails.
Madame, lorsque on fait de mauvaises prévisions budgétaires, ça s'appelle le manque de crédibilité du budget. En termes de finances publiques, on parle de manque de crédibilité du budget. Et donc, quand vous faites des prévisions budgétaires, l'auditeur va comprendre que le budget, c'est une loi qui vous autorise à mobiliser des recettes et une loi qui vous autorise à dépenser. Madame, lorsque vous allez en dehors de cette loi qui a des dépassements budgétaires, au terme de l'article 129 de la loi sur les finances publiques, il s'agit d'une faute de gestion.
Professeur Jean-Claude Chilumbaï, vous êtes député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Professeur, quelle analyse vous faites des conclusions de ce rapport de l'ODEP?
Madame, je suis d'abord d'accord avec le professeur Mouteba sur le fait qu'il a participé à ce rapport et qu'il y a des affirmations qui peuvent se vérifier sur terrain, notamment la question relative au dépassement budgétaire et le constat qu'il y a plus d'argent pour les institutions que pour le social. Et ça, c'est une réalité cette fois-là qu'il faut analyser à l'aune de l'évolution même du fonctionnement de nos institutions. Il faut les en féliciter, et du reste, par rapport au fait que ces travaux qu'ils font, ce sont des travaux d'incitation, de gestionnaires, pour que de plus en plus qu'il soit développé un élan de conscience qu'il faut assainir notre cadre de finances et notamment le fonctionnement de notre budget. Mais il y a là des faits qui ne cadrent vraiment pas avec la réalité dans cette dénonciation. Il faut d'abord inscrire le fait que lorsqu'on dit comparativement à la période Kabila et à la période Tshisekedi, Kabila a géré le pays avec un gouvernement homogène et que la période Tshisekedi que nous avons connue jusqu'il y a peu avait été une période de cogestion parce que il n'y a pas eu majorité parlementaire en faveur du président Tshisekedi et que les gouvernements qui gèrent les finances publiques étaient majoritairement constitués des anciens membres de la période Kabila, donc les imputations en termes de failles devraient être autant redistribuées pour tenir compte de ce que le président Tshisekedi n'a pas eu les mains libres pendant cette période-là. Mais ici, le mieux à noter, c'est que le comportement n'est pas le même. Vous l'avez d'ailleurs souligné. Si nous avons connu des 18 ans de la loi de l'omerta, le silence, avec Kabila, aujourd'hui, le président Tshisekedi, comme capitaine du bateau se présente ici comme le premier dénonciateur de mauvaises pratiques. Et d'ailleurs, en donnant l'exemple du projet 100 jours, on peut déjà trouver en cela une note d'encouragement, dans le sens que ce projet avait été un projet d'urgence pour des nécessités qui commandaient notre existence commune dans une période où il n'y avait pas un gouvernement responsable. Il y a eu cette justification-là, mais les abus intervenus dans son exécution ne sont pas restés impunis, comme c'est le cas des abus plus graves intervenus à une autre période avec laquelle il compare, celle de Bukangalonzo notamment, ou d'autres dénonciations qui sont en train chaque jour ici d'être révélées. Sur la question de la lutte contre la corruption, c'est encore là une note. Le recul, les rapports de transparence internationale, c'est vrai, c'est des rapports d'observation générale. Mais dans les faits, il faut noter que la période de délaissement intervenue entre l'investiture du président Tshisekedi et l'entrée effective en fonction du gouvernement sous sa supervision avait été considérable, qu'elle a permis de creuser notamment ce trou qu'il dénonce de 8 points de recul. Et qu'après cette période-là, les faits se sont plus ou moins standardisé ou stabilisé, et qu'à ce jour, les données sur terrain sont en train de démontrer que l'effort de lutte contre la corruption, entreprise essentiellement par l'inspection générale de finances, est en train de produire des résultats, notamment avec cette mobilisation de recettes qui est notée comme une grande première depuis un certain nombre d'années.
Professeur Tulumbay, mais le rapport de 2020 parle aussi d'une régression de 2 points. Ça veut dire que les choses n'évoluent pas positivement, malgré tous les rapports de l'inspection générale des finances, malgré toutes les dénonciations, on constate qu'il y a quand même une régression.
C'est là que j'ai dit qu'il faut considérer des choses. Déjà, lorsqu'on dit la période Tshisekedi et la période Kabila, il faut noter que la période Tshisekedi a été une période de cogestion avec Kabila, ça c'est un fait. Et la question...
Vous étiez allié.
Oui, la question importante que le professeur a soulignée, qui devait aussi mériter l'accent, c'est celle de dire que tous les budgets que nous avons connus depuis bientôt 20 ans ont eu un aspect plus apparent que réel. La mobilisation des recettes n'a pas suivi la projection budgétaire. Ce qui fait que les dépenses de souveraineté étant généralement des dépenses prioritaires, on ne peut qu'assister à cette réalité que les institutions consomment plus que le social. Dans ce sens que nous sommes un État en guerre, la diplomatie, elle consomme énormément d'argent, mais aussi les efforts de sécurisation du pays, notamment dans l'Est de la RDC, consomment énormément d'argent. Ça donne ce déséquilibre entre les dépenses du fonctionnement des institutions et les dépenses sociales, c'est une réalité. Maintenant que le cap est pointé plus ou moins sur un budget réel qui correspondrait en termes de dépenses et de recettes réalisées annuellement, je crois que nous aurons l'occasion pour la première fois peut-être d'évaluer le président Tshisekedi avec cette gestion homogène qui intervient grâce à l'Union sacrée. Il a parlé du projet Tshilegelu. Moi, j'ai oui compris
qui boite
que
aujourd'hui.
Le gouvernement, en adoptant le projet Tshilegelu, l'a étalé sur 3 ans. Les 3 ans représentant le programme triennal qui va être suivi de la représentativité budgétaire de ces 3 ans à venir. On n'a pas dit que le projet Tshilegelu ressemble au projet 100 jours comme s'il allait être exécuté avec des fonds exceptionnels. C'est un projet qui sera exécuté sur des fonds budgétairement alloués et mobilisés à cet effet-là.
Professeur Tshilumba, il y a Fabrice Tshilumba qui nous écrit depuis Kananga. Il demande pourquoi, depuis que Félix Tshisekedi est à la présidence de la République, on constate qu'il y a toujours des dépassements budgétaires. Qu'est-ce que la présidence fait de cet argent?
Non, oui madame, le professeur Mouteba a expliqué les raisons de ce dépassement budgétaire. Il est clair qu'il a fait, il a établi une relation entre les recettes et les dépenses de l'État, ce qui constitue le budget. Et ici nous avons un fait que, depuis un certain temps, ce n'est pas seulement hier, nous avons un déséquilibre réel entre recettes et dépenses parce que le budget tel qu'il est présenté, il n'est pas le budget réellement exécuté. Et chaque fois qu'on l'a adopté de 6 milliards, on a exécuté généralement à moins de 50% ou à un peu plus de 50%, qui fait que lorsque les dépenses de souveraineté, qui sont, il faut le reconnaître, de dépenses prioritaires en termes de dépenses, par exemple, de la diplomatie, des dépenses de l'armée, de dépenses de sécurité et des dépenses du fonctionnement des institutions de la République elle-même, deviennent prioritaires, ça ne fait que conduire à ce dépassement.
On sacrifie le social au détriment des institutions.
Mais madame, moi je ne sais pas s'il y a une légitimité qui conditionne la survie de l'État. Pendant ce temps que l'État est en péril lui-même et que des provinces entières de l'Est du pays sont en péril, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Laisser les rébellions et les groupes armés avancer allègrement, attendre qu'ils arrivent à Kinshasa éventuellement, ou qu'ils tuent davantage notre population pour satisfaire le social, ou sortir l'État parce que les moyens à disposition ne permettent pas d'affronter les dés efficacement au même moment. Le social, c'est aussi cette gratuité de l'enseignement qui a permis aux parents de capitaliser les recettes en les orientant vers d'autres besoins de survie qui sont des besoins alimentaires et de logement et autres. C'est bien le social. Ce qui est vrai, il faut reconnaître, de l'enterre intervenu dans la réalisation des promesses qui avaient été faites au début du mandat et pendant la campagne, laquelle l'enterre est liée à des facteurs aussi interne qu'externe, mais aussi à cette réalité que le président Tshisekedi arrive au pouvoir pendant que le monde entier est en inerte de suite de cette maladie à coronavirus qui n'a pas permis que les transactions traditionnelles du pays se fassent dans l'orthodoxie et cohéremment.
Merci.
Et qui a conduit à ce que la balance commerciale se décline avec des effets notamment qui a eu une forte inflation de la première année de prise de fonction du président Tshisekedi.
Merci professeur. On vous garde encore dans cette émission. Le temps pour nous de donner la parole au professeur Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC d'Afrique. Professeur Dadi Salé, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, comment vous analysez les conclusions du rapport de l'ODEP qui pense que les régimes se succèdent, mais la mauvaise gouvernance des finances publiques demeure et s'aggrave? De 2017 à 2019, le comportement est le même, plus de moyens pour les institutions et moins de moyens pour le social.
Je n'aimerais pas répéter mes co-débatteurs que j'ai suivi un peu difficilement, mais la situation de nos finances publiques pendant cette que vous décrivez, je pense qu'elle ne fait que s'aggraver, et c'est très vrai par au constat. Donc, on peut bien remarquer que la direction de la dette publique a bien démontré que la situation ne s'est pas améliorée et que les contrôles au fond ne s'est pas fait comme il fallait. Donc, jusqu'à preuve du contraire, si on prend les chiffres un peu où on est à plus ou moins 12,5 milliards, ça va? Extérieur, là, c'est en 2020, en avril, parce que là, on confirme ces chiffres-là, et on comprend effectivement qu'on ne va qu'en s'endettant de plus en plus, et on passe le plus grand temps en train de payer effectivement la dette, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Vous vous souviendrez effectivement pour arriver au point d'achèvement à l'époque de Matata Mponyo, c'est-à-dire qu'on avait pratiquement sacrifié les sociales pour exactement payer des dettes. Mais si on doit se poser une question, à quoi servent effectivement ces dettes? Si on a des chiffres où c'est démontré à suffisance que ce sont des institutions, effectivement la présidence, le parlement, qui consomment effectivement le gros du budget. Donc, on peut conclure, comme ça a été conclu avec tous les services de la dette, que nous avons un sérieux problème par rapport même à la considération, n'est-ce pas, de la dette que nous prenons.
Professeur Dadi Salé, on a un petit souci avec votre ligne téléphonique. Essayez de bouger pour améliorer la qualité de la ligne. Vous êtes d'accord avec l'Observatoire de la dépense publique que la mauvaise gouvernance demeure et s'aggrave même. Cette mauvaise gouvernance est due à quoi?
Oui, alors, je prends la forme structurelle. J'ai écouté les co-débatteurs et on est tous d'accord, mais j'aimerais prendre la forme structurelle. Au fond, dans la forme structurelle de la Constitution de la République démocratique du Congo, eh ben, on a trois pouvoirs. Les pouvoirs législatifs, exécutifs et les pouvoirs judiciaires. Et pour l'instant, on constate, pas pour l'instant, depuis même l'indépendance, ça va, les pouvoirs exécutifs tendent à supplanter les autres pouvoirs, tendent à le pouvoir législatif qui est chargé effectivement du contrôle. Donc, et ce n'est même pas le pouvoir exécutif, c'est plutôt la présidence. Parce que dans le pouvoir exécutif, nous avons la présidence et nous avons le gouvernement, selon la forme actuelle de notre constitution. Mais c'est plutôt la présidence qui tend à avoir un peu de primauté sur les autres pouvoirs. Et du fait que vous avez compris mieux que moi, si la présidence, je sais que certaines personnes risquent de ne pas être contentes, mais ça n'a rien à voir avec un pouvoir, c'est la théorie et qui est vérifiée sur le terrain. Si il n'y a pas de séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif ne peut pas faire son travail, semble être un peu à la porte du pouvoir exécutif, et même pas du pouvoir exécutif du gouvernement, mais de la présidence, ben, il ne joue pas son rôle. Comment nous pouvons avoir un dépassement de 300%, 400%, 500%, 1000% et personne ne les justifie. Et nous rigolons. C'est ça même le vrai problème. Où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent? Parce que on dit que la loi budgétaire, c'est une loi. Une loi, ça signifie qu'elle doit s'appliquer pour tout le monde. Et la déontologie et la bonne gouvernance exigent à ce que qui que ce soit, personne n'est au-dessus de la loi, ni le président, ni le premier ministre, ni le parlement, ni aucun organe n'est au-dessus de la loi. Mais je pense que le fait que nous avons un peu cette histoire, excusez-moi les mots, une structure politique un peu pas très bien, tout le monde est d'accord, un peu chaotique, la structure politique où la présidence surplante, c'est-à-dire le pouvoir exécutif surplante les autres pouvoirs, je vous assure, avoir des bonnes gouvernances, ça devient, quel que soit ce que la FMI ou bien toutes les organisations vont répéter, ça ne va pas changer grand-chose.
Professeur Florimo Muteba, les auditeurs sont nombreux à appeler sur notre standard. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient d'Ouvira, dans la province du Sud-Kivu.
Amani Kassali Placide, depuis Ouvira au Sud-Kivu. La déclaration de l'ODEP est irrationnelle et exagérant, fondant son argumentaire uniquement sur le fait que les dépenses des institutions soient élevées que les dépenses du social. L'ODEP n'a fait qu'allusion aux points faibles du nouveau régime, mais qui ne peuvent à aucun cas être comparés au régime passé. Du fait que l'ODEP ne reconnaît pas les quelques avancées réalisées par le régime en place, cela met en doute la qualité impartial et qui devrait adopter cette structure. L'ODEP fait semblant d'ignorer les ajouts salariaux faits aux magistrats qui commenceront désormais à toucher 1 600 $ et aux enseignants un ajout de 100 100 Congolais. Ça, ce n'est pas du social, ça. Je pense que l'ODEP aurait tout intérêt à observer un comportement modeste dans sa déclaration, car ça serait faux de faire croire à la population qu'il n'y aurait aucune différence entre l'ancien régime et le nouveau régime, pendant que nous sommes en train d'observer quelques avancées dans les dépenses des finances publiques depuis que le nouveau gouvernement avait été installé.
Brève réaction, professeur Florimo Muteba.
Bon, je crois que l'auditeur doit comprendre le social dans son ensemble. Madame, je prends un exemple. Le secteur agricole et rural, c'est là où la très grande majorité de la population vit. Le budget réservé à ce secteur est resté plus ou moins le même que sous Kabila. On nage toujours entre 2-3% du budget global, même lorsque dans la convention de Maputo, il a été recommandé aux pays donc présents au niveau de la SADC de monter les budgets de l'agriculture partout à 10%. Mais ici, non seulement on est resté à 3%, 2%, mais l'exécution, finalement, c'est 0,8%. Mais madame, ça concerne qui? Des millions et des millions. Ce que le président aime bien appeler le peuple d'abord, ce sont ces gens-là. Mais voilà, qu'est-ce qui leur est donné? Et en plus, et comme j'ai dit, ce qui n'est pas exécuté, on n'arrive pas même aux 3% parce que, au-delà de 0,8, le reste va vers les institutions. Qui quand elles sont à court de fonds chez eux, ils prennent donc ce qu'il y a dans le secteur plus pauvre. En plus, lorsqu'on parle, comme disait le professeur Tchumba tout à l'heure, parler de la guerre à l'Est, mais c'est le président Félix Antoine Tshisekedi lui-même qui a dénoncé les détournements en masse qui sont faits là-bas lorsqu'on lui dit qu'il y a 21 ou 22 000 militaires et que sur le terrain, il arrive, il trouve la moitié. Où va le reste de l'argent? Vous comprenez, madame? ça va dans les détournements, etc., etc., qu'il a dénoncé, lui-même qu'il a dénoncé. Et lorsque nous parlons de dépassement, parce que les professeurs, si l'on va tenter de justifier ça, madame, lorsque le président arrive au pouvoir, il fait, je ne sais pas combien de voyages, comme vous le savez, le coût total de ces voyages a avoisiné les 50 millions de dollars. C'est-à-dire tous les budgets de l'agriculture, tous les budgets du secteur agricole. Vous voyez que donc ce sont des gaspillages où cet argent aurait pu aller peut-être pour appuyer les petites et moyennes entreprises locales, pour booster la production. 50 millions de dollars dépensés dans les voyages, ça aurait pu entrer dans l'amélioration du système de santé.
Ces voyages-là, c'était pour aller chercher les investisseurs.
Madame, je répète encore une fois, les Chinois ne vont pas aux États-Unis pour développer les États-Unis. Les Américains ne vont pas développer l'Europe. Le capital se fait chez soi. C'est en appuyant, en faisant des Congolais les moteurs, les acteurs et les bénéficiaires du développement qu'on va avancer.
Professeur Jean-Claude Chilumbayi, on lance une réaction pour vous qui nous vient de Kisangani.
Je suis Jedudi Amabela. Je vous appelle depuis Kisangani dans la province de la Tshopo. En effet, ces rapports de l'ODEP estiment parfaitement bien l'enlisement de la mauvaise gouvernance des finances publiques, caractérisée par la prédation, la dissipation et la jouissance malgré l'alternance au sommet de l'État. C'est comme si on a juste alterné les acteurs, mais les systèmes de gabegie financière au profit de la minorité dirigeante est resté le même. La seule différence, c'est peut-être dans la rhétorique. Le nouveau régime de messieurs Tshisekedi, fin de se soucier du peuple avec les fameux slogans « le peuple est d'abord », mais dans la pratique, il s'emploie systématiquement à faire passer les intérêts égoïstes et individuels du clan au pouvoir. En plus des institutions inutilement éléphantesques et budgétivores, il s'observe un déficit criant de politiques publiques d'intérêt général. Les quelques actions déstructurées et inadaptées du gouvernement sont plutôt des occasions pour les nouveaux riches de détourner les fonds de l'État.
Brève réaction, professeur Chilumbayi.
Oui, madame. D'abord, à l'intention du professeur Florimont, non. C'est dire que 50 millions de voyages diplomatiques du président de la République, c'est un gaspillage, c'est vraiment exposer une vision toute réductionniste de l'État. Les Chinois ne sont pas allés aux États-Unis chercher le développement parce que la Chine n'est pas en guerre. Le Congo traverse exactement cette histoire de conflits armés, mais aussi nous étions un pays totalement abandonné, un pays saboté par la communauté internationale qu'il fallait chercher à désenclaver. Vous n'allez pas vouloir chercher le développement lorsque vous n'êtes pas sûr d'assurer la stabilité interne d'un État. Et là, dès lors que nous savons que cette stabilité interne pour des pays encore fragiles comme le nôtre dépend aussi de ce que l'État s'entoure des relations importantes, que ce soit même de protéger son indépendance, et le président de la République l'a fait. Aujourd'hui, le Congo, c'est un pays qui est rentré sur les rails. On ne peut pas réduire un État, tout un État comme la République démocratique du Congo, au social entendu dans le sens des distributions de la nourriture et des systèmes de santé. Lesquels systèmes de santé, s'il n'y a pas de paix, seront tout à fait détruits sans autre forme de possible. Il faut, lorsque le professeur Moutéba dit, comprendre le social dans son ensemble. Social dans son ensemble qui suppose que tout ce qui a été détruit pendant 60 ans devrait être réhabilité en une année et demie. Et pour lui, et pour l'ODEP, la gratuité de l'enseignement, ce n'est qu'une partie du social. Il fallait le social dans son ensemble. Et lorsque le professeur dénonce notamment le fait de corruption et qu'il reconnaît malheureusement que le président de la République a eu lui au moins le courage de dénoncer la mafia dans l'armée, ce qui n'a pas été le cas alors que cette mafia avait été si intense dans les années passées, et que lui arrive à comparer le régime du silence avec cette mafia inconsidérée, très intense, avec un régime qui se permet lui au moins de dire que ça ne va pas et de mettre en place des principes pour que les choses soient bien gérées. Il y a eu des réalisations dans le sens du social.
Vous l'avez dit dans votre analyse de tout à l'heure, professeur Chilumbayi, est-ce que vous pouvez donner une brève réaction par rapport aux propos de Jedidia qui nous a appelé de Kisangani?
Bien évidemment, c'est la même chose. Lorsqu'il dit que le régime est dans l'optique d'autosatisfaction et de jouissance, Ce n'est pas vrai. L'idée de jouissance, bien évidemment, on la voit juste parce que un serviteur de l'État est parti de sa condition d'un piéton vers un véhicule. On considère que c'est une jouissance, comme s'il était normal que les hauts fonctionnaires de l'État croupissent dans la disette et qu'ils soient en train de vivre sous la honte par rapport à d'autres pays, à ce que nous connaissons dans la gestion de l'État. Ici, il y a des faits vrais que l'ODEP dénonce, qui sont des faits d'encouragement. Nous avons, et nous soutenons, je crois que le président de la République aussi, s'est satisfait de la partie objective de ce rapport qui lui permet d'avoir des éléments pour davantage booster les réformes qu'il a déjà initiées, mais qui veulent aussi que, en même temps que l'ODEP dénonce ces dysfonctionnements budgétaires, qu'il soit en train aussi d'encourager à un moment donné notre population à revenir dans une culture fiscale pour que les mobilisations, comme il le dit, soient de l'intérieur.
Professeur Dadi Salé, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Lubumbashi.
C'est Clément Kalamba depuis la ville qui préfère de Lubumbashi. Les rapports de l'Observatoire de la dette publique est l'expression véritable de l'état de notre pays depuis une certaine période. Parce que la mauvaise gouvernance et la mafia se sont installées, l'avenir du pays est compromis malheureusement. Les institutions politiques et administratives ne travaillent que pour leur survie personnelle et le peuple congolais croupit à son triste sort vivant à la limite des animaux, pendant que le politique ne font que s'enrichir illicitement. Comment comprendre que malgré les dénonciations et différents rapports sur la mauvaise gouvernance dans nos institutions, la justice ne s'y penche pas? Et en plus, pourquoi jusqu'à ce jour la Cour des comptes ne fonctionne pas effectivement dans notre pays? Seule la justice peut éradiquer ce fléau et nous amener vers le développement.
Réaction, professeur Dadi Salé, mais aussi que faire pour améliorer l'exécution de la loi des finances en RDC?
Oui, je pense que l'ami Clément de Lubumbashi a attaqué un peu les décors et tout le monde trace, mais je n'aimerais pas que ce débat soit vraiment politisé. Nous sommes dans un débat des experts, si j'ai bien compris. Et en tant qu'experts, il est vrai que nos finances publiques sont chaotiques. On n'arrive pas à avoir un budget qui est beau, on n'arrive pas à avoir les sociales, on n'arrive pas. On peut comprendre les bonnes intentions, comme j'ai compris le professeur Chilumbaï. Écoutez, le rôle du président n'est pas d'avoir de bonnes intentions. Ce n'est pas d'encourager. Le président, il est le chef suprême. Il agit. Il prend des actions. Et je pense effectivement que ce n'est pas une question du président actuel. Et un peu beaucoup de présidents depuis l'indépendance, nous n'avons pas eu le courage politique d'échanger des structures de gestion en profondeur. Et en tant qu'expert, et tous les experts seraient d'accord avec moi, si on ne politise pas les débats, on va comprendre qu'il n'y a pas eu de grandes réformes. Il n'y a pas eu des changements directs où on s'est dit, comme le professeur Mouteba était en train de vouloir le dire, en train de le dire pratiquement, mais écoutez, on doit changer les cycles économiques de notre nation. C'est-à-dire qu'on ne doit pas enrichir l'extérieur, ça va au détriment de l'intérieur, du peuple congolais. Donc toutes les politiques restent extraverties, au bénéfice, comme pratiquement on le voit, entre guillemets, de la FMI, de la Banque mondiale, et vous avez compris, nous continuons à contracter des dettes. C'est ça la difficulté. Plutôt que effectivement faire la richesse nous-mêmes, c'est tout qu'on est potentiellement très riche. J'aimerais préciser au professeur Chilumbaï, je suis en train d'écrire un petit livre où j'ai dit sauver la République démocratique du Congo dans une année. C'est ça qui est bien. Pour sauver la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que si tous les gouvernements prenaient le pouvoir et avaient comme prétexte que non, on vient de loin et vous savez, le mal est très profond, on attend. Non, non, ça ce sont des prétextes. Ce ne sont pas des justifications. Le peuple a besoin des techniciens et des politiques assez courageuses, ça va, pour changer la situation. Et d'une façon, avec à côté, avec insistance, avec, on sent qu'il y a quelque chose qui change d'une façon sérieuse. Donc je pense que j'ai proposé une des solutions, c'est différent. Et peut-être certaines personnes ne vont pas comprendre, tant que le pouvoir exécutif est à la personne de la présidence, sans parler du président actuel, j'ai dit c'est tous les régimes qui se sont succédés, le président a été trop fort. Nous avons les individus qui semblent être trop forts, plus que les institutions. Ça, c'est le vrai problème.
Merci, professeur Dadi Salé. Nous sommes à la fin de notre émission. Professeur Florimond Mouteba, ça sera votre conclusion en 30 secondes. Hein. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer l'exécution de la loi des finances?
D'abord, la première chose, je voudrais proposer au président et son équipe, entre autres au professeur Tshilumbaï, qui est un homme bien formé, un intellectuel, prenez le rapport de l'ODEP, il y a beaucoup de recommandations qui sont faites, que ce soit sur le plan des options politiques à changer en faveur du développement endogène, entre autres, que ce soit en termes de réformes au niveau macroéconomique, que ce soit en termes de recommandations qui sont faites directement au gouvernement, qui sont faites au Parlement, qui sont faites même à des ministères clés comme les finances et le budget. Prenez ces rapports et allez analysez-le. Vous verrez qu'il y a énormément de recommandations qui peuvent aider à amorcer des réformes en matière de finances publiques et en matière même de politiques publiques et qui peuvent aider le pays. Parce que l'attitude du professeur Tshilumbaï, c'est de, il politise ce rapport et les débats, alors qu'il y a moyen de tirer beaucoup, beaucoup de ces rapports-là. Mais, entre autres, pour conclure, je voudrais qu'on réhabilite d'abord les contrôles, tous les contrôles qui sont morts, entre autres celui de la Cour des comptes et les autres. D'ailleurs, en ce moment, nous parlons avec vous, l'ODEP est en train d'organiser une table ronde avec la plupart des institutions de contrôle et la société civile pour voir comment faire pour réhabiliter ce contrôle, quel plaidoyer faire vis-à-vis vers l'État, vers la population, pour que les contrôles en amont et en aval permettent vraiment d'assainir les finances publiques. Un dernier mot seulement, c'est que le pouvoir exécutif cesse de s'arroger vraiment tous les pouvoirs. Parce qu'on voit les soucis même du président de la République, c'est d'aller même jusqu'à contrôler par tous les moyens, légaux et non légaux, l'Assemblée nationale, les parlements, je ne vais pas entrer dans les débats là-dessus, tout simplement pour vraiment consolider, asseoir et avoir un pouvoir absolu. Et ça, ce n'est pas bon dans une démocratie. Et ce n'est pas bon pour améliorer la gouvernance.
Merci. Merci, professeur Florimond Mouteba. Professeur Tshilumbaï, ça sera aussi votre conclusion. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer l'exécution de la loi de finances?
Je voudrais que le professeur Florimond s'assure et qu'il soit rassuré que son rapport ne châtie nullement pas les dirigeants actuels, le système ayant bien changé. Il est accueilli avec toute satisfaction, bien évidemment dans ses dimensions les plus objectives, parce qu'il formule ses recommandations qui doivent être suivies. Il y en a même qui ont été déjà prises en considération dans le programme du gouvernement qui a été présenté par le Premier ministre Samalou Kombé et avalisé par le Parlement. En l'occurrence, le fait de réactiver tous les organes de contrôle, y compris la Cour des comptes, c'est contenu dans le programme du Premier ministre Samuel Kondé, donc ça sera fait. Le souci d'assurer le contrôle qui habite l'ODEP, il est un souci bien accueilli. Il n'est pas de raison et de justification pour le président de la République et tout ce qui l'entoure de vouloir politiser ce rapport, mais bien évidemment un souci de faire des observations que même lorsqu'on est enseignant et qu'on peut corriger, il faut corriger avec douceur et savoir reconnaître les mérites de ceux qui travaillent pour les encourager à avancer dans Merci. Le bon sens. C'est la comparaison que nous avons trouvée tout à fait abjecte, tout à fait inacceptable entre un régime qui ne se souciait guère de quoi que ce soit et d'ailleurs un régime pendant lequel
Merci,
lui,
professeur.
Le professeur Florimond, après avoir rendu ce rapport, il s'est cacheré pour un temps. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un de très libre qui peut aller se présenter lui-même à la présidence et discuter avec les gens. Ça, c'est des avancées. Et aussi, lorsqu'il y aura des actions contre ceux qui se font corrompre, ceux qui ont corrompu le régime passé ou ceux qui ont détruit le pays dans leurs actes, il faut considérer que ce ne sont pas des actions politiques, mais bien un effort pour que tous ceux qui ont volé retournent ce qu'ils ont, qu'ils portaient ce qu'ils ont retiré à cette population. C'est aussi ça l'amélioration du social.
Merci, professeur Tshilumbaï. Professeur Dadi Salé, 30 secondes aussi pour conclure.
Je pense effectivement, comme on serait d'accord, on ne devait jamais avoir un homme plus fort que les institutions. Nous avons des textes, nous avons des institutions, la Cour des comptes, on a la justice, on a le Parlement, qui devait vraiment faire son travail, mais comme je l'ai dit, tant qu'on n'arrive pas à séparer, comme c'est dit dans la Constitution, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, et qu'un individu, ou bien un point comme ça a été pendant très longtemps, et ça tend à rester la même chose, je peux vous assurer. Et toute la technicité ne va pas marcher. Tout simplement, pourquoi? Parce que, bon, écoutez, tout le monde aura peur de cet individu.
Merci.
Parce que c'est lui qui va prendre de bonnes décisions. Donc, pour moi, les finances publiques ne peuvent s'assainir que quand les structures seront plus fortes que quelque individu que ce soit du président de la République.
Merci, professeur Dadis Salé. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Guy Mathieu de la Madimba sous la supervision de Martin Sebou-Jangoué. Polydor Basson est à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.